Si vous avez envie de travailler sur un porte-avions, notamment sur le fleuron de la marine française qu'est le Charles de Gaulle, vous avez deux options. Soit vous engagez dans la marine nationale, soit entrer chez Naval Group, qui réalise les grands chantiers de maintenance et de modernisation du porte-avions, et qui va construire dans les années qui viennent son successeur, le porte-avions de nouvelle génération, prévu pour 2038. En attendant, vous pouvez participer à ce projet en rejoignant les 18 000 collaborateurs de Naval Group en France et à l'international, en allant voir les offres d'emploi sur naval-group.com à l'onglet carrière. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour parler bien évidemment de l'Ukraine, mais cette fois sous l'angle des issues et des sorties possibles du conflit, que ce soit par la négociation ou au contraire par l'escalade, j'ai le plaisir de recevoir Olivier Kempf, officier de carrière dans l'armée de terre, où vous êtes parti à la retraite générale. Tout en étant à la fois analyste et auteur, je vais notamment mentionner que vous avez fondé un cabinet de synthèse stratégique intitulé La Vigie, qui publie régulièrement une lettre d'information. Et vous avez par ailleurs soutenu une thèse sur l'OTAN, vous avez passé une partie de votre carrière d'officier. Vous êtes aussi chercheur associé à la FRS, la Fondation pour la Recherche Stratégique. J'ajoute que depuis le début du conflit, vous êtes l'une des personnes qui produit des analyses très intéressantes de l'évolution de la situation en français, aussi bien dans les médias que sur Twitter, où vous faites des points hebdomadaires sur la situation, qui complètent extrêmement bien les points quotidiens de Michel Goya, que les auditeurs connaissent bien. Et je peux dire qu'évidemment, ça se complète aussi avec des sources en anglais, mais entre vous et Michel Goya, on est déjà bien informés sur l'évolution tactique et stratégique de la guerre, si on vous suit tous les deux sur Twitter. Donc bonjour, merci beaucoup d'être là, et bienvenue dans le Collimateur.
Bonjour, heureux d'y être, enfin.
Alors, je vais expliquer un peu le propos de l'émission, qui est peut-être de faire un petit pas de côté par rapport au suivi des combats ou au bilan rétrospectif qu'on a pas mal fait jusque-là et qu'on peut trouver abondamment dans tous les médias. Propos d'aujourd'hui qui pourrait peut-être se résumer par la question « Où est-ce qu'on va maintenant ?» Ce que je veux dire, c'est qu'il est clair que les avancées russes se ralentissent toujours davantage et qu'ils sont plus ou moins en train de consolider leurs gains. On les voit notamment passer en formation défensive autour de Kiev en ce moment, semblerait-il. Et très nettement, quand on voit la difficulté qu'ils ont à prendre des villes, et même complètement encerclées comme Mariupol, il paraît assez évident qu'ils vont avoir du mal, disons, à prendre tout ou partie du territoire ukrainien, et clairement leur objectif initial de faire tomber le pouvoir à Kiev semble bien lointain, en tout cas à l'heure actuelle. Ce qui fait que certains analystes ont évoqué la perspective qu'on se trouve assez proche du point culminant de l'attaque russe, ce qui est un concept militaire qui décrit le moment où la situation se stabilise. Ce qui ne veut pas du tout dire que la guerre ou les combats se terminent, ça peut se stabiliser aussi dans un état qui reste très meurtrier, c'était par exemple tout à fait le cas à la fin de 1914, mais c'est une manière de dire, disons, que plus personne n'avance vraiment de manière significative. Alors on va en parler largement, et on va voir notamment quelles pourraient être les options et les conditions de possibilité pour sortir, disons, plus ou moins rapidement de cette phase d'une manière ou d'une autre, que ce soit par la négociation et un cessez-le-feu ou une armistice, ou au contraire, par une escalade, peut-être, y compris éventuellement nucléaire. Mais on peut quand même commencer par signaler qu'on n'y est pas totalement à ce point culminant, et si les troupes russes progressent lentement, voire très lentement, elles progressent quand même, notamment sur ce qu'on pourrait appeler le front Est, donc autour de Kharkov, à la louche, disons, et aussi au sud, à partir, disons, de cette bande terrestre qu'ils ont capturée entre la Crimée et le Donbass. Donc, pour faire malgré tout un bilan rapide, est-ce que vous pourriez nous dire, Olivier Kempf, ce qui, dans la situation actuelle, alors je précise qu'on enregistre le lundi 21 mars, pourrait, selon vous, quand même encore bouger, et disons, dans quels endroits et sur quels fronts la situation militaire pourrait se décoincer à nouveau?
D'abord, bravo pour votre tableau synthétique. Une première remarque, tout d'abord, c'est de considérer que les forces russes, alors faisons attention aux représentations cartographiques, il y a eu un certain nombre de débats, et donc je ne vais pas dire quel contrôle du territoire, mais l'avancée extrême des forces russes se trouve occupée ou avancée sur environ 3 à 4 fois la Belgique. Je crois qu'il faut un peu regarder les échelles, faire des comparaisons, tout ça pour dire qu'ils ont déjà finalement un certain nombre de prises de gages substantielles qui font que l'Ukraine d'avant ne pourra pas revenir telle qu'elle était. Voilà, ça, c'est la première chose. Vous mentionnez effectivement une sorte de solidification à Kiev et pour moi, toute la partie nord du pays jusqu'à Kharkov. Kharkov, ils l'ont entouré, un peu de pression, mais sans réelle volonté de la prendre. Pourquoi ? Ben parce que c'est extrêmement consommateur que d'assiéger et de vouloir prendre une ville. On y reviendra ailleurs. Tout ça pour dire que on a effectivement l'impression que sur toute la partie nord, qui est quand même déjà conséquente, ils veulent d'une part conserver ce qu'ils ont et d'autre part solidifier leur dispositif autour de Kiev de façon à exercer une pression permanente sur la ville, certes sans forcément progresser ou vouloir entrer dedans, c'est quand même une zone urbaine très étendue, mais en tout état de cause faire une pression militaire et donc politique sur la ville, parce que une ville entourée ou quasi entourée telle qu'elle est, avec juste un point d'accès, c'est quand même extrêmement compliqué. Si je vais totalement de l'autre côté, sur le front sud, c'est-à-dire ce qui est finalement en face de la Crimée, et on reviendra sur la partie est du pays, ils ont rapidement sorti de la presqu'île de Crimée. Ils ont été très vite saisir Kherson, qui est le pont sur le Dniepr, et c'est ça qui est absolument fondamental. On reviendra sur Kherson. Mais Kherson, c'est finalement un des rares points de franchissement sur le Dniepr. Dniepr, qui est un fleuve extrêmement large par endroit, qui peut faire plusieurs kilomètres de large. C'est ça qu'on... Là encore, il faut regarder les échelles, hein, se méfier de représentations trop petites de l'Ukraine. Et donc, avoir un point de franchissement sur l'Ukraine au sud est tout à fait aussi important que l'avoir, et ils l'ont au nord, puisqu'ils sont sur la rive droite du Dniepr, à côté de Kiev. Donc, ils ont deux points de franchissement, ce qui leur permet... théoriquement, et j'insiste sur le théoriquement, la capacité de relancer. Je doute qu'ils relancent plein ouest et notamment vers tout ce qu'on appelle la Galicie, c'est-à-dire tout ce qui est autour de Lviv, qui est finalement la zone d'influence polonaise traditionnellement. Si vous regardez à travers l'histoire, c'est là où vous avez les catholiques uniates, etc., etc. À mon avis, ils ne chercheront pas à aller là-bas. En revanche, au sud, et c'est pour ça que franchir le Dniepr est aussi important, et ça explique aussi pourquoi ils font encore pression sur Mykolaïev. Mykolaïev, c'est le pont sur une autre rivière, elle aussi assez importante, qui s'appelle la Boug. Et leur sujet d'intérêt, c'est de savoir des points de franchissement stables, de façon à pouvoir éventuellement, je dis bien éventuellement, mais on est dans un deuxième ou troisième objectif, une fois que les autres, et on va y revenir, auront été remplis, pour éventuellement relancer vers Odessa et au-delà faire la jonction avec la Transnistrie.
Ça, on peut préciser, on dit beaucoup, on parle beaucoup depuis quelques jours d'un éventuel débarquement vers Odessa, parce qu'on a vu des navires russes placés pas trop loin. On peut dire simplement que tant que Mykolaïev n'est pas pris, d'une manière générale, c'est complètement impossible, parce qu'un débarquement comme ça, ce serait quasiment du tir au pigeon. Il faudrait vraiment prendre la ville en tenaille. Et là, on voit que le point de friction, c'est Mykolaïev et qu'il n'est pas pris du tout. Donc toutes les inquiétudes qu'il y a eu il y a peut-être une semaine, 10 jours, sur est-ce que Odessa, ville, etc., symbole, va être prise, c'est pas d'actualité maintenant.
Ça n'est pas d'actualité. Ça reste un objectif, je dirais, de niveau opératif. C'est pas un objectif aujourd'hui de premier rang. Probablement que dans l'état-major russe, il y a un plan supplémentaire pour, si les choses se décantent, aller saisir Odessa. Il faut continuer à faire pression sur Mykolaïev. Hein. On n'y fait pas assez attention parce qu'on va regarder d'autres villes plus... comment dire, symbolique, mais Mykolaïev, ils font pression dessus et on sent peut-être une sorte d'attrition de la défense ukrainienne. Donc il faut suivre ça avec intérêt, voir ce que ça va donner. Même, je le répète, ce n'est pas leur axe d'effort. Leur axe d'effort, il est où ? Eh bien, il est principalement à l'est. Et pourquoi il est à l'est ? Parce que depuis 2014, les Ukrainiens ne sont pas restés inactifs. Ils ont installé une grosse part de leur dispositif militaire face au Donbass. Le fameux Donbass avec les deux républiques dites autonomes, sécessionnistes en tout cas. Et donc ils se sont installés avec un gros volume de force. Alors est-ce que c'est 30%, est-ce que c'est 40%, est-ce que c'est 50% du dispositif ukrainien? Je ne sais pas, je n'arrive pas à avoir justement ce ratio, mais en tout état de cause, c'est un dispositif conséquent avec finalement des troupes qui sont pas réellement de la défense territoriale, mais qui sont des troupes entraînées. Or, cette défense ferme qui a été installée est en train, petit à petit, de se faire réduire avec une prise en tenaille, tout d'abord par le nord, avec la saisie tout d'abord du nord de l'oblast de Louhansk. On n'y fait pas attention, mais ça y est, les Russes l'ont pris, et ils ont quasiment récupéré l'ensemble de l'oblast de Louhansk. Or, c'est important parce que ça fera partie des revendications russes de donner aux deux républiques sécessionnistes les anciennes circonscriptions administratives que sont les deux oblasts, celui de Louhansk et celui de Donetsk. C'est pour ça que, pour moi, c'est aujourd'hui l'effort principal. Donc, à Louhansk, c'est pratiquement fait, sauf en une petite ligne qui suit la rivière Donetsk, entre Izium et Severodonetsk. Donc, vos auditeurs regarderont sur une carte en disant « Mais de quoi ils parlent ? Comment ils connaissent ça par cœur ?» Des localités que je ne connaissais pas il y a 3 semaines. Hein. Je suis comme vous tous et j'ai appris ma géographie ukrainienne. Et on voit qu'ils ont enfin pris, de leur point de vue, parce que ça leur a pris beaucoup d'efforts, mais ils ont réussi à passer Izium. D'ailleurs, les Ukrainiens ont lancé une contre-attaque pour empêcher une progression rapide au sud d'Izium. La situation à Severodonetsk ne paraît pas des meilleures. Et le saillant, petit à petit, de ce saillant nord-est, là-bas, est en train d'être réduit. Donc ça, c'est pour le nord. Et puis au sud, vous l'avez marqué, la bande de terre qu'ils ont conquise à partir d'Azov, de la mer d'Azov, ils ont encerclé le Mariupol, on va y revenir, ils ont fait la jonction avec le Donetsk et ils sont en train, par un lent mouvement, de progresser vers le nord. Donc une tenaille par le nord, une tenaille par le sud, et des choses que peu d'observateurs remarquent mais qui sont significatives, on observe au moins une et peut-être deux percées à partir du territoire, des positions des républiques sécessionnistes, c'est-à-dire à travers le dispositif défensif ukrainien.
Donc, c'est-à-dire qu'on aurait une sorte à la fois de mouvement développement de ces lignes ukrainiennes qui sont bien établies, et en même temps, elles commenceraient à se faire percer aussi par le front frontalement. Donc on sent que ce qui va peut-être devenir une poche si tout ça continue, serait évidemment en très mauvaise posture, parce que ça les couperait aussi des lignes de vie qui viennent de l'ouest du territoire ukrainien.
Absolument. Alors, là, qu'est-ce qui va se passer ? C'est là où on va en parler très directement, mais ce que je suis juste en train de dire, c'est que, et pour revenir à votre remarque sur le point culminant, est-ce que l'offensive russe est au bout de ses effets et de son effort ? Alors, c'est très difficile à dire. J'aurais tendance à penser que non, puisque je les vois grignoter. Certes très lentement, mais grignoter autour de ce dispositif ukrainien face au Donbass et voir celui-ci se faire finalement peu à peu réduire. Et donc, il va arriver un moment où les Ukrainiens risquent de devoir de faire face à un choix dramatique, soit rester sur place, faire une défense ferme, au risque de se faire encercler et de devenir une poche, comme vous le dites. Mais les poches, au bout d'un certain moment, elles sont assiégées, elles n'ont plus d'approvisionnement, bien évidemment en nourriture, en eau, en médicaments, mais aussi en munitions. Et donc ça risque de poser problème, parce que le destin des poches, sur la durée, c'est malheureusement de se faire réduire. Ou alors, l'autre option, qui risque de faire face aux Ukrainiens, si les choses continuent à durer comme ça, si la pression russe continue à durer, ça va être d'entamer un mouvement rétrograde qui va être très compliqué, puisqu'ils seront là, pour le coup, harcelés par les forces russes. Alors, est-ce que les forces russes auront la dynamique pour poursuivre,
Un mouvement rétrograde, c'est simplement faire une retraite, si possible bien organisée, pour justement contrer cet encerclement.
C'est exactement ça, c'est pas une débâcle, on essaye de se retirer de ligne successive en ligne successive par échelon, mais vous voyez bien que pour préparer les échelons, finalement, vous allez diviser vos forces par deux. Une qui fait face, et puis une qui va se réinstaller un peu en arrière. Celle qui fait face, quand elle cède, eh bien, elle est obligée de reculer et de traverser ses lignes amies pour aller se mettre à nouveau sur une ligne derrière. Et la deuxième, eh bien, devient en première position, etc. Donc vous voyez que c'est extrêmement compliqué, extrêmement délicat, surtout quand l'ennemi, pour le coup, est finalement avec un certain nombre de moyens réunis et puis a réussi à concentrer ses efforts. Alors ce mouvement rétrograde, il peut durer sur plusieurs centaines de kilomètres, c'est-à-dire qu'il peut aller jusqu'au Dniepr. Et c'est pour ça que, quand vous regardez la carte, en arrière de ce front du Donetsk, on voit bien qu'un objectif ultérieur de cette manœuvre russe serait la ville de Dniepropetrovsk, qu'on disait autrefois Dniepropetrovsk, c'est-à-dire le pont sur le Dniepr, à proprement parler. Et là encore, on arrive à cette question des points de franchissement sur le Dniepr, et vous l'avez mentionné, sur la question des lignes d'approvisionnement logistique des forces ukrainiennes.
On peut mentionner que Dniepropetrovsk, toute cette région, c'est aussi un nœud ferroviaire très important, ce qui est très important pour les Russes, parce que se saisir des lignes de chemin de fer, c'est comme ça que leur logistique marche bien. Donc ce serait aussi un grand basculement.
Oui, et puis c'est aussi quelque chose qui est important, c'est une sorte d'Ukraine utile. Hein. L'Ukraine, autrefois industrielle et en tout cas céréalière, se trouve plutôt à l'est du pays qu'à l'ouest. Et donc, supposons que leur manœuvre réussisse, et pour l'instant, là encore, j'observe qu'ils grignotent. C'est pas des grands mouvements de foule, hein. c'est pas la guerre éclair, mais tous les stratégistes sont très très rétifs à cette notion de guerre éclair. Mais ce lent grignotage, si vous voulez, est en train, si vous voulez, de continuer à progresser. Et on revient à la notion de point culminant. Le point culminant, c'est quand l'agresseur, l'attaquant, ne progresse plus. Aujourd'hui, l'agresseur progresse encore un peu, très lentement, je le conviens, etc., etc., mais malgré ses échecs, ses déconvenues du début du conflit, il s'est visiblement réorganisé, il a visiblement réorganisé sa logistique, il a visiblement réorganisé avec toutes les difficultés qu'il rencontre son commandement et son dispositif, et finalement il s'est ressaisi par rapport à son coup d'arrêt initial.
Ouais, mais en sens inverse, c'est-à-dire plus ça dure, ils sont extrêmement étendus, vous l'avez mentionné, c'est un territoire immense qui tient, et si ça reste statique, stationnaire, ça pose une question pour la soutenabilité de cet effort pour les forces russes, d'abord parce que ça demande des moyens d'approvisionner des fronts un peu partout comme ça, et puis aussi parce qu'il s'agit de tenir éventuellement des territoires qu'ils ne contrôlent pas, et on sait, on a vu, on se doute en tout cas, que l'armée ukrainienne et, disons, le pouvoir politique ukrainien a un peu réfléchi à la chose depuis un certain temps. Et donc, on peut imaginer que cesser d'avancer et devoir tenir ces territoires, ça devienne une sorte de saignée assez constante si jamais les Ukrainiens réussissent à passer en mode insurrectionnel guérilla sur ces territoires tenus par les forces russes.
Absolument, absolument. Nous sommes bien d'accord là-dessus. C'est réellement l'étape d'après. Et si vous voulez, c'est à ce moment-là, je pense, qu'il faudra parler de points culminants. Donc, on a finalement deux hypothèses. La première, c'est que il s'essouffle dès aujourd'hui, dès cette semaine, dès la semaine prochaine, et que il ne progresse plus, et que finalement le dispositif ukrainien face au Donbass tienne. Eh bien, dans ce cas-là, on en restera là, et en tout état de cause, ils ne relanceront pas sur Kiev et ils ne relanceront pas sur Odessa. Ça, je pense qu'on peut le tenir, et que donc on ira vers finalement un affrontement sur des positions assez fixes, assez défensives, et que, eh bien, on aura une mauvaise situation où on aura peut-être un cessez-le-feu, mais pas de traité de paix, et on aura une Ukraine qui sera malgré tout divisée. Et puis avec effectivement le problème dans ce cas-là pour les Russes de devoir prendre le contrôle, parce que là je vous parle de front et d'avancée des troupes, mais derrière il va y avoir la question du contrôle. On le voit bien en ce moment avec ce qui se passe à Kherson. Kherson a été pris de mémoire le 2 mars, on n'en a pas entendu parler, et puis on a commencé à entendre parler de manifestations vers le 18-19, enfin à partir de la semaine dernière à peu près. Et puis là vous avez vu les images hier de la population qui fait une manifestation et qui force un convoi à se retourner, et ce matin le drame, parce que bien évidemment les Russes sont passés de considérer la population de Kherson comme neutre, hein, une population comme hostile. Et du coup, eh bien, comme la plupart des troupes militaires au monde, c'est pas leur métier de faire du maintien de l'ordre. Et donc, qui dit hostilité, dit immédiatement, ils utilisent les armes qu'ils ont. Ce qui, bien évidemment, suscite des morts, des blessés, des drames et des tragédies. Et on est tous, si vous voulez, désolés parce qu'il est en train d'arriver.
Et c'est un crime de guerre.
Et c'est un crime de guerre.
Mais on peut dire que les crimes de guerre viennent souvent moins d'un truc doctrinal qu'une inadéquation entre les moyens et les nécessités du moment.
Je crois que, malheureusement, dans nos sociétés modernes, qui sont toutes beaucoup plus urbanisées qu'autrefois, la notion de guerre urbaine est extrêmement problématique, parce que vous en avez partout, elles sont beaucoup plus étendues qu'autrefois, Et on voit bien que pour investir une ville, alors soit vous l'assiégez et puis vous coupez tous les approvisionnements et vous attendez qu'elle se rende parce qu'elle meurt de faim. C'est ce qui se passait finalement un peu sous l'Ancien Régime, mais déjà c'était pas très rassurant parce qu'il y avait des morts, il y avait des maladies, il y avait toutes ces choses-là. Soit vous envoyez de l'infanterie spécialisée, mais les Russes n'en ont pas beaucoup, d'où l'importance d'envoyer les Tchétchènes du côté de Marioupol, parce que Marioupol, finalement, c'est non seulement un symbole, mais c'est aussi un môle de résistance avec un nombre assez conséquent à l'origine de forces ukrainiennes. Et pour eux, pour les Russes, il s'agit de réduire cette menace potentielle sur leurs arrières. C'est pour ça, finalement, qu'ils veulent saisir Marioupol. Bien sûr, le symbole, mais d'abord détruire les troupes qui s'y trouvent.
Je vous ai coupé, vous disiez, donc ça, c'était la première option, que ça passe dans une sorte de guérilla harcelante. La deuxième option, c'est évidemment que la manœuvre réussisse.
Réussisse, et qu'ils réussissent, par exemple, à tenir une grande partie de la rive gauche du Dniepr. Et là, peut-être qu'ils peuvent se réarticuler, peut-être que c'est à ce moment-là que s'ils estiment que finalement les choses se déroulent finalement, entre guillemets, mieux pour eux que ce qui avait été un moment envisagé, et qu'à ce moment-là, ils peuvent dire, tiens, on va aller saisir Odessa pour avoir la liaison avec la Transnistrie, pour avoir tout le rivage de la mer Noire, pour isoler encore plus l'Ukraine résiduelle, et pour arriver à... Et là, on va arriver sur qu'est-ce qui va se passer après, sur les options politiques, les résultats politiques de cet effort de guerre.
Alors, donc, ensuite, en supposant peut-être plus la première option, encore que, mais disons, en supposant que cette situation continue à se figer, en quelque sorte, qu'on arrive au point culminant de l'offensive russe, donc j'aimerais envisager les différentes options qui peuvent se présenter. Je vais dire avant tout qu'il ne s'agit pas du tout de faire des devinettes ou des paris sur ce qui va se passer, parce qu'il y a énormément de variables qu'on ne maîtrise absolument pas. Mais ce à quoi on va essayer de se livrer maintenant, c'est un exercice qui est tout à fait balisé et connu, qui est la prospective. On a fait un épisode dessus il y a quelques mois avec Florence Gaube d'ailleurs. Et on peut dire qu'il ne s'agit pas tant d'essayer d'avoir bon à la question de qu'est-ce qui va se passer dans le futur, que tenter de réfléchir à la situation actuelle en interrogeant précisément les différentes variables, aussi bien militaires que psychologiques des acteurs de la situation, et en se demandant comment elles peuvent influer sur l'état des choses. Donc, si on prend à cet état, peut-être proche, espérons, d'un blocage, d'une stagnation des opérations militaires, parce que bon, s'il y a une victoire russe, évidemment, les choses sont un petit peu plus simples, dans une certaine mesure.
Je ne sais pas ce que c'est qu'une victoire russe.
En tout cas, dans la deuxième option, disons, où il réussirait à faire la liaison avec la Transnistrie, il serait en tout cas beaucoup plus maître du jeu diplomatique qui s'en suivrait.
Absolument, mais dans tous les cas, aujourd'hui, on peut, à 99% de chance, dire qu'ils ne peuvent pas conquérir toute l'Ukraine. Ça, c'est sûr. Et que donc, on va avoir une ligne de front qui va sinuer à travers le territoire ukrainien actuel.
Précisément, donc si on envisage ça, il y a plusieurs options. Il y a les solutions optimistes de sortie négociée du conflit. Alors, on parlera peut-être après pour terminer sur une touche un peu plus légère. Mais au risque d'être un peu alarmiste, il y a évidemment une voie plus immédiate, qui est celle de l'escalade. Ce que je veux dire, c'est que si cette attaque russe avait des objectifs politiques, elle en avait forcément, on ne sait pas exactement lesquels ils étaient dans la tête de Vladimir Poutine et de ses proches, mais il paraît assez certain qu'ils ne sont pas remplis à l'heure actuelle, surtout si ça tournait autour de ramener l'Ukraine dans le giron russe. Donc dès lors, il peut y avoir la tentation d'augmenter la mise pour obtenir les résultats escomptés, et on a peut-être déjà quelques indices que c'est une option qui fait son chemin. Je fais référence notamment aux tirs de missiles qui seraient hypersoniques, on va prendre plein de précautions du point de vue russe. Donc simplement, voilà, à quoi est-ce que ça pourrait... Si on prend l'option de l'escalade, s'il y a une fuite en avant, en quelque sorte, pour ne pas perdre tout ce qui a été investi dans cette guerre, à quoi est-ce que ça pourrait ressembler du point de vue russe, à votre avis ?
Je suis très circonspect, mesuré, incertain devant ces questions d'escalade. Il y a incontestablement ce que moi j'appelle de la rhétorique stratégique qui fait clairement allusion au vocabulaire nucléaire. Incontestablement, cela étant...
C'est la menace plus ou moins voilée, enfin en tout cas la mention de du statut nucléaire de la Russie, ce qui sous-entend des choses.
Ce qui sous-entend et qui est, si vous voulez, alors on va revenir sur la guerre informationnelle à un moment, mais ce qui est finalement la façon qu'ont les Russes de s'adresser à l'opinion publique occidentale, puisque la guerre informationnelle commune, la lutte informationnelle commune a été clairement, du moins du côté européen et américain, gagnée par les Ukrainiens et Zelensky avec le remarquable travail produit par le président ukrainien. Mais donc, si vous voulez, il y a une messagerie stratégique qui consiste à dire aux Européens, aux alliés de l'OTAN et notamment aux puissances nucléaires, surtout pas de co-belligérance. Donc, il y a eu des allusions très nettes, mais par exemple, le tir en début de semaine dernière sur le centre de regroupement de matériel et de renfort en soldats qui était dans l'ouest de l'Ukraine, de mémoire, c'était à côté de Lviv, c'était réellement ça. Attention, n'allez pas trop loin dans les livraisons d'armes, parce que sinon, vous allez rentrer dans de la co-belligérance, et là, on est dans l'escalade. Donc, même chose... À mon sens, une des raisons probables de l'utilisation des fameux missiles à dimension hypersonique, disons ça comme ça.
On peut rappeler simplement que c'est une question très compliquée de savoir si un missile est hypersonique ou pas. En vérité, il faudrait qu'on ait la trajectoire du missile pour savoir s'il a été hypersonique. On l'a pas. On peut dire qu'en tout cas, ils ont tiré un missile à réputation hypersonique, ce qui en soi est un message.
C'est exactement ça. Donc, parlons de... Voilà, on vient d'inventer la notion de missile à réputation hypersonique. C'est une première pour collimateur. Voilà, on a un scoop. Redevenons un peu plus grave après ce petit sourire. Là aussi, il s'agit, là encore, de faire référence à cette grammaire stratégique qui est du nucléaire et que, d'ailleurs, les alliés de l'OTAN, les Américains, les Russes... les Américains, les Britanniques et les Français comprennent très bien en disant... on est très prudent et surtout on n'ira pas attaquer directement la Russie. Et d'ailleurs, même la question des MiG-29, vous souvenez ça d'il y a une dizaine de jours, eh bien on n'y va pas parce que ça pourrait servir de prétexte à une escalade. Donc les choses sont assez claires de ce point de vue-là. Il y a cette rhétorique stratégique, mais je croise les doigts. Je suis un de ceux qui persiste à penser qu'il y a une rationalité au Kremlin. Quoi qu'on en dise, mais j'y crois pas. Après, il y a d'autres options.
Ouais, simplement, est-ce qu'on peut dire un mot ? J'essaye de jamais en parler directement, parce que je trouve aussi que ça n'a pas vraiment de rationalité en tant que telle à l'heure actuelle, mais c'est une éventualité qui inquiète beaucoup de monde, y compris certains auditeurs du collimateur, j'imagine. Cette éventualité d'escalade nucléaire, si on fait de la politique fiction, quel est le genre d'enchaînement qui pourrait amener à... si ce n'est un affrontement, en tout cas une escalade d'ordre nucléaire qui pourrait toucher le cas échéant l'Europe et la France. Je le dis parce que les gens s'inquiètent de savoir où il y a des abris antinucléaires à Paris, c'est un vrai truc. Hein. C'est donc, faut le dire. Quels sont, disons, les indices, quelles sont les variables qui changeraient, qui pourraient amener à ce genre de discussion, à ce genre de grammaire stratégique, à votre avis ?
Je pense qu'il y a deux aspects. Vous avez le risque nucléaire, le risque d'escalade, et personne n'a réellement envie de lever l'ambiguïté. Parce que cette grammaire stratégique nucléaire repose aussi, c'est sa force et c'est son immense danger, bien sûr, repose sur de l'ambiguïté. Personne n'a réellement envie de lever les ambiguïtés. Après, deuxième élément, il faut quand même rappeler que substantiellement, une arme nucléaire est une arme défensive. C'est pas du tout une arme tactique, c'est pas une arme de théâtre, contrairement à ce que certains ont pu dire malencontreusement. Et même les Russes ont une doctrine de non-emploi en premier. Et donc il faudrait réellement qu'ils se sentent, je dirais, menacés au plus profond d'eux-mêmes pour qu'ils aillent sur de telles dimensions, me semble-t-il. Et c'est pour ça que je reviens sur cette rationalité. Pour l'instant, ça ne se passe pas sur leur territoire, ça se passe sur le territoire ukrainien. Voilà. Après,
cette messagerie... même s'ils étaient mis complètement en échec, en aucun cas ça ne menace réellement leurs intérêts vitaux et souverains. Donc...
En stratégie, la notion de « en aucun cas », il ne faut jamais. Voilà. Je veux dire, il y a toujours des cas, et donc oui, ce sont des affaires dangereuses, sérieuses, qu'il faut considérer posément. Cela étant, à 99% de probabilité, de chance d'ailleurs, utilisons le mot chance, cette dimension nucléaire n'arrivera pas sur l'emploi d'armes nucléaires. Après, bien évidemment, ça fait partie d'une dialectique de la peur, et heureusement que nous avons tous la frousse. Si vous voulez. Heureusement que nous avons tous la frousse et heureusement qu'eux aussi, finalement, ils n'ont pas tellement envie d'aller tester. Donc, ça fait partie de cette grammaire stratégique nucléaire. Donc, moi, je n'y crois pas. Je crois que les spécialistes n'y croient pas, mais la notion de croire, c'est de l'estimation. Mais revenons à votre question. Là où ils pourraient escalader, parce que, d'abord... ils l'ont probablement déjà fait, et en tout cas, état de cause, je pense, pour le coup, qu'ils n'hésiteraient pas trop à le faire, c'est s'ils se sentent dans une situation difficile tactiquement ou opérativement, ils peuvent tout à fait lancer des armes chimiques, qui est un autre registre que le monde nucléaire, même si certains veulent mélanger les deux avec la notion d'armes de destruction massive. Je veux dire, la grammaire nucléaire, c'est autre chose. Les armes chimiques, c'est quand même autre chose. C'est pas la même grammaire stratégique. C'est pas les mêmes résonances stratégiques, les mêmes conséquences stratégiques. On peut le déplorer, hein. Déplorons-le.
Mais il y aurait évidemment des conséquences politiques, etc.
Peut-être des conséquences sur le terrain aussi.
Et disproportionnées, sans doute, par rapport à l'intérêt tactique de tel ou tel. Enfin, je veux dire, une arme chimique, c'est symboliquement un tabou énorme. Et bon, on voit mal ce qui pourrait justifier ça. Mais en même temps, ça ne veut pas dire que s'ils ont l'impression qu'il faut débloquer une chose, que c'est totalement en dehors de leurs possibilités.
Je réponds à votre question. Quelles sont leurs options s'ils veulent augmenter légèrement l'escalade? Voici quelque chose qu'ils pourraient faire.
Et en termes de mobiliser d'autres, on parle beaucoup d'une éventuelle entrée de la Biélorussie directement dans le conflit, même si il semblerait que ce soit quand même compliqué parce que c'est pas évident qu'ils apportent tant que ça, ni qu'ils soient très chauds pour le faire au demeurant. On pourrait imaginer qu'ils ouvrent d'autres fronts, c'est un concept dont on a un peu parlé ces derniers jours, d'escalade horizontale, c'est-à-dire c'est pas on va déverser infiniment plus de moyens, ça va être on va déclencher d'autres conflits pour diviser la tension occidentale.
Oui, c'est séduisant. Après, rapportons ça à la réalité du terrain. Votre première question est celle du point culminant, c'est-à-dire qu'on sent quand même que l'ensemble des forces russes est mobilisé sur le théâtre ukrainien. On sent aussi qu'ils croisent un peu les doigts pour que ça ne s'aggrave pas dans le Caucase ou en Asie centrale, au Kazakhstan ou que sais-je. D'ailleurs, quelque chose que peu de gens observent, mais on voit bien que les Azerbaïdjanais, ont des velléités de reprendre deux, trois petites choses encore à l'Arménie en profitant du fait que le grand frère russe là-bas, qui est le gardien de l'ordre dans le coin, est occupé. Voilà. Donc on voit bien qu'ils sont quand même surinvestis sur le théâtre ukrainien. Après, quels seraient les fronts adjacents. D'abord, ça ne peut pas être l'Alliance Atlantique, pour la raison que l'on vient de dire, c'est-à-dire l'accord plus que tacite entre les Russes d'un côté et les Alliés de l'autre, de pas engager une confrontation directe. Au nord, vous pourriez avoir la Finlande et la Suède, mais elles font partie quand même de l'Union européenne, donc elles bénéficient de l'article 42.7, elles ont quand même des partenariats très rapprochés avec l'Alliance Atlantique. Rappelons quand même que les Russes n'ont pas forcément un très très bon souvenir d'une guerre avec les Finlandais. Donc il ne reste finalement qu'une seule option. C'est au sud, c'est la Moldavie. Moldavie qui n'est pas de l'Union européenne, qui n'est pas de l'Alliance, qui est au contact de l'Ukraine, qui est séparée d'ailleurs de l'Ukraine par la fameuse, cette espèce de bande de territoire sur la rive gauche du Dniestre, qu'on appelle la Transnistrie, justement, où il y a d'ailleurs des forces russes, pas beaucoup, mais quand même. Voilà. Cela étant, revenons à ce qu'on disait à Odessa, je veux dire, les forces de Transnistrie, si jamais elles contribuent à l'effort de guerre, elles vont d'abord aller aider à une éventuelle saisie d'Odessa, si jamais cet objectif opérationnel était choisi par les
Russes. Plutôt qu'à déstabiliser la Moldavie, vous voulez dire ?
Oui, alors déstabiliser, si vous voulez, par des actions militaires, j'en doute, par des actions politiques. Alors là, pour le coup, on voit que les Russes ont un certain nombre de relais, notamment dans les Balkans. Donc vous voyez qu'on est assez loin du théâtre ukrainien.
Il y a enfin un dernier front, peut-être qu'on peut envisager, c'est le front dont vous êtes un spécialiste aussi, c'est le front cyber. Alors il y a quelques heures, Joe Biden viendrait de dire qu'il y aurait une menace cyber de plus en plus croissante de la part de la Russie, de plus en plus de possibilités de cyberattaque selon le renseignement américain. C'est aussi une possibilité pour mettre d'autres moyens qui éventuellement ne seraient pas aux dépens de ceux qui sont déjà investis en Ukraine. Dans une confrontation, on sait que le cyber c'est ambigu, mais c'est quand même un peu plus indirect que d'envoyer des chars et de l'artillerie, quoi.
Ah ben, ce sont des actions la plupart du temps couvertes, opaques. D'ailleurs, dans une cyberattaque, vous avez d'abord de l'espionnage, un peu de subversion, avant d'aller au sabotage, si vous voulez. Je veux dire, vous avez trois types de cyberattaque, et il est très probable que du cyberespionnage, il y en a des deux côtés, d'ailleurs. La grande surprise de ce conflit, si vous voulez, c'est que depuis, mettons, 4 semaines, qu'il a quasiment commencé, alors qu'on avait vu le cyber comme une branche des opérations. Et des opérations militaires. Souvenez-vous de tout ce qu'on a dit sur la guerre hybride. Je ne me souviens plus de ce qu'avait dit l'article de Gerasimov en 2014 sur le sujet. On disait, tout le monde disait le cyber, le cyber, le cyber. Et là, on ne voit paradoxalement rien, et même peut-être plus d'offensives de la part des Occidentaux sur des cibles ukrainiennes. On a beaucoup plus de témoignages plus de témoignages en ce sens que d'agressions russes. Et donc la question, c'est pourquoi? Peut-être parce que d'abord ils ont des difficultés, peut-être parce que les défenses ukrainiennes se sont solidifiées en plusieurs années, aidées en cela par les Américains, pour tout un tas de raisons. Et puis peut-être que la raison que vous suggérez est une raison pertinente, c'est-à-dire que on garde finalement le golden bullet, cette balle en or, cette arme un peu supérieure, on la garde pour le moment où elle aura des effets stratégiques que l'on jugera nécessaires et pour marquer effectivement une escalade. Peut-être, attention, c'est une hypothèse, mais cela expliquerait peut-être pourquoi. Si vous voulez, on a vu peu de cyber dans cette guerre.
Alors, d'une manière plus générale, peut-être une partie gênante et inquiétante, c'est probablement l'état de la dissuasion russe. Ce que je veux dire, c'est qu'il paraît assez clair pour l'instant, en tout cas, que l'armée russe sort pas particulièrement grandie de cette aventure ukrainienne, et que ça, c'est sans doute assez problématique vu de Moscou, notamment face à l'OTAN, qui ne soit pas peut-être autant pris au sérieux qu'il le désirait, étant donné les limites qu'ils ont démontrées en Ukraine, aussi bien en termes d'organisation que de moyens qu'ils ont pu déployer. Alors, même qu'on peut dire que ce n'est pas si simple que ça, évidemment, un affrontement vis-à-vis de l'OTAN n'aurait rien à voir avec ce qui est fait en Ukraine. Mais donc, à votre avis, quelle est l'ampleur de ce problème pour la Russie? Parce qu'il y a une question de statut international, qui était un des objectifs de l'aventure ukrainienne et qui clairement n'est pas rempli de ce point de vue-là, et comment est-ce qu'il pourrait peut-être être tenté de restaurer cette dissuasion, cette crédibilité en tout cas de leur posture et de leur puissance militaire.
Alors vous avez raison parce que, souvenez-vous, si on jette un regard sur les 25 années passées, on observe du côté occidental ce qu'on a appelé la fatigue expéditionnaire ou la fatigue de la guerre avec tout un tas de gens qui disaient bah, finalement l'outil militaire ça ne sert pas à grand-chose et ça ne donne pas de solution politique. Et puis tout le monde disait, bah, regardez, Poutine au contraire, c'est l'inverse, bah, finalement il a gagné la Tchétchénie. La Géorgie en 2008, il a saisi la Crimée et le Donbass en 2013-2014, il est intervenu en Syrie et puis bah, finalement il a fait gagner Assad, il est en Centrafrique et ça se passe bien, et regardez même les Français qui étaient chez eux au Mali, et bien finalement ils sont en train de partir la queue entre les jambes et puis avec Wagner qui va les remplacer. Bon. Et donc on avait cette psychologie du succès militaire.
Ça a notamment donné lieu à tous ces métaphores battues et rebattues sur le joueur d'échecs incroyable qui était Poutine, qui sont un peu fatigantes au bout d'un moment.
Absolument. Mais revenons à la personnalité de Poutine. Son expérience est que, et malgré tout, son expérience psychologique, si vous voulez, est que lui, grâce à son outil militaire, il réussit à avoir des succès politiques à la différence des Occidentaux. Et donc, il y a eu peut-être ce sentiment d'orgueil, cette hubris, si vous voulez, de toute puissance, qui l'a incité finalement à faire la même chose en Ukraine avec une plus grande dimension. À ceci près que, et vous faites très bien de le noter, c'est que l'image, si vous voulez, valorisante qu'il avait réussi à acquérir autour de ces 15 dernières années, est dilapidée. Elle est dilapidée parce que, eh bien, on est en train de se rendre compte que ben, les matériels soviétiques, c'est peut-être pas forcément aussi bien qu'on le pensait, que c'est quand même un des grands exportateurs d'armement au monde, donc ça va poser problème, d'une part, et que, d'autre part, eh ben, les forces russes, c'est quand même pas, c'est pas aussi bien. Alors, méfions-nous, cela étant, là encore, de notre perception d'occidental, d'européen, de français, où on a un énorme prisme et quand on réussit à se décentrer, à aller regarder ce qui se passe ailleurs dans le monde, les choses sont quand même beaucoup moins nettes. Et puis, je le rappelle, si vous voulez, on ne sait pas quels étaient les objectifs, les buts de guerre initiaux de Poutine. Quoi qu'il ait dit, quoi qu'il ait revendiqué, vous savez, les histoires de démilitarisation, de nazification, etc. Mettons ça de côté. Il est très probable, il est quasiment sûr, si vous voulez, qu'il en a rabattu. Et que ce qu'il voulait au début, eh bien, il est obligé d'avoir des choses beaucoup plus limitées par rapport à ses ambitions initiales. Cela étant, et on revient à la première partie de notre discussion, observons malgré tout que ses forces... Alors, ça va être difficile à tenir dans la durée, parce que c'est un autre aspect, parce que le contrôle d'un territoire, le contrôle d'une population, etc., c'est extrêmement dur, ça nécessite d'autres efforts, etc. Mais il sortira probablement de la guerre avec l'occupation de 3 fois ou 4 fois la Belgique dans un territoire ukrainien, avec donc probablement une Ukraine divisée. Et donc, il pourra dire, c'est décevant par rapport à mes ambitions, mais finalement, je vais m'en contenter parce que je considère que le gain est finalement pas si mauvais que ça. Donc, attention à notre... À notre point de vue d'occidental, il ne faut pas surestimer la Russie, il ne faut pas la sous-estimer. À force de dire, j'ai entendu ça, vous comprenez, c'est le pays de l'Espagne, c'est pas dangereux. Bah, c'est pas dangereux, mais il a quand même attaqué en Ukraine. Alors, en revanche, ce qui est sûr, c'est qu'il est tellement consommé en Ukraine. Voilà, je veux dire, avec des niveaux de perte dont on discute, mais qui sont très très gros. Puis là, il est entamé dans une guerre d'usure, les Ukrainiens aussi d'ailleurs, mais dans une guerre d'usure, il va sortir épuisé. Et donc, il va passer les prochaines années à reconstruire son dispositif, et c'est pour ça qu'il n'a absolument pas intérêt à aller chercher l'OTAN. They shot 4 men in a cocaine deal. And he left them lying in an open field, full of old cars with bullet holes in the mirrors. And
tried to do his best, but he could not. Please take my advice. Wasn't supposed to go down that way. But they burned his brother, you know, and they left him lying in the driveway. They let him down with nothing. He tried to do his best, but he could not. Please take my advice.
Alors justement, c'est aussi une des options dont j'aurais voulu parler dans cet éventail. C'est, donc il y a l'escalade, etc., si on monte encore d'un ton, voir ce que ça donnerait. Il y a les issues négociées dont on pourrait parler dans une minute, mais il y a aussi cette possibilité que de plus en plus de gens évoquent, c'est qu'on tombe dans une guerre, disons, d'attrition sur le très long terme, c'est-à-dire bon, la poursuite des opérations passe forcément dans une version maximaliste de très haute intensité comme on l'a vu au début, mais avec le désir d'épuiser les réserves de l'adversaire côté russe et côté ukrainien. Donc qu'est-ce que vous en pensez et qui en sortirait gagnant si tant est qu'on puisse en avoir une idée?
Il y a un mot pour désigner ça, c'est « conflit gelé ». Un conflit gelé, ça ne veut pas dire que le conflit est arrêté. Le conflit continue à perdurer et à faire des attaques d'artillerie, des morts, des offensives localisées, etc. Mais finalement, tout le monde s'y est accoutumé. Il n'y a plus de grands mouvements. La ligne de front, si vous voulez, la ligne de tranchée de part et d'autre est dessinée sur le terrain. Et puis on est passé à autre chose. Donc oui, vous avez cette possibilité que, à coup d'épuisement et d'usure, pour le coup, des deux dispositifs, parce que là encore, les Ukrainiens sont usés aussi. Je veux dire, on n'y fait pas trop attention, mais les Ukrainiens sont aussi usés, même si on a très très peu de renseignements fiables, etc. Mais logiquement, ils sont usés, eux aussi, et donc on peut très bien arriver à cette espèce de vous savez, les deux géants qui tombent l'un contre l'autre, aucun ne veut s'écrouler, mais aucun ne veut admettre sa défaite, qui n'est pas un neutre, qui n'est pas un pat, comme on dit aux échecs, vous faisiez allusion aux échecs, c'est pas un pat, c'est autre chose. Parce que là, on va arriver sur les conséquences politiques, et la question que vous allez probablement bientôt me poser.
Bah oui, c'est-à-dire maintenant, si on prend l'autre versant du problème et des solutions possibles, c'est une solution politique relativement négociée, qui après tout est possible. Il y a des discussions actuellement sous médiation turque et israélienne, qui pourraient sans doute donner quelque chose s'il y a une volonté partager d'arrêter les combats, on n'en est pas encore là de toute évidence. Alors, je crois qu'on peut prendre le problème à plusieurs échelles temporelles différentes, mais si on commence par la plus immédiate, que vous avez mentionné rapidement tout à l'heure, qui serait un cessez-le-feu, au besoin simplement pour permettre aux adversaires de reconstituer leurs forces, à quoi est-ce que ça pourrait ressembler, et est-ce qu'on en est là, à votre avis?
J'espère qu'on va entendre mon soupir.
Ouais, je
mon soupir d'hésitation.
Il y avait cette idée que Michael Kaufman, qui est un très bon analyste américain, disait il y a 2 semaines que l'armée russe en avait peut-être pour 3 semaines de réserve et qu'au bout d'un moment, il faudrait un cessez-le-feu au moins pour se reconstituer et pouvoir repartir de l'avant. Est-ce que ça vous paraît
Vous voyez, je regardais ce qui se passe autour de Kiev. Quels sont les témoignages que l'on a autour de Kiev? C'est une armée russe qui s'organise défensivement sur ses positions, qui organise des positions d'artillerie, qui fait attention à être à portée de canon du centre de la capitale. Observez, vous voyez, quelque chose qui a été peu relevé, le fameux convoi de 60 km qui était bloqué, vous vous souvenez, il y a 3 semaines, tout le monde s'engossait, etc. Il semble qu'il ait été débloqué, ce convoi, on n'en a plus entendu parler, il n'a pas été détruit, on connaît les Ukrainiens, s'ils avaient détruit le convoi, on l'aurait su. Donc ils ont quand même probablement réussi à rétablir un certain nombre de choses, à rétablir leurs lignes logistiques, qui sont fragiles, il y a du harcèlement, etc., j'entends bien, mais voilà. Et donc, si vous voulez, quand vous êtes en position, je dirais, de statique, entre guillemets, installée, et que vous faites pression sur l'adversaire à coup de duel d'artillerie, c'est finalement assez confortable et ça ne consomme pas trop de vos forces. Donc, je reviens, ne pas sous-estimer l'armée russe, ils ont certainement plein de difficultés, etc. Mais c'est quand même encore une armée imposante, une armée imposante. Donc moi je fais très attention. Alors pour répondre à votre question du cessez-le-feu, le cessez-le-feu c'est déjà un signe politique en soi. Vous pouvez avoir la matérialité d'un cessez-le-feu, c'est-à-dire, bah, ok, on s'arrête sur nos lignes et puis on arrête. Ce qu'on disait tout à l'heure, cette notion de conflit gelé, sans qu'il y ait de sanctions, je dirais, politiques, quelles qu'elles soient, qu'il soit juste un cessez-le-feu. C'est ce qui s'est passé en Corée, ça s'est passé en 1953 et ça fait 70 ans quasiment qu'il n'y a pas eu de traité, de négociation et de sortie politique de ce conflit-là. Mais c'est important de garder ça à l'esprit parce que les négociations peuvent arriver sinon sur un accord, c'est-à-dire une transaction. Une transaction, c'est le substantif qui vient du mot transiger, ce qui veut dire que les deux parties transigeraient, abandonneraient une part de leur revendication initiale. Et donc, je pense qu'on n'aura pas le temps d'en parler ce soir sur les paramètres de cette négociation, mais on voit quand même déjà que par rapport à il y a 3 semaines, quand les premières négociations face à face ont très tôt commencé, on a une évolution malgré tout des positions des uns et des autres. J'observe dans les discours du président Zelensky, tout admirable qu'il soit, que pointe de plus en plus de l'aigreur. C'est-à-dire de la déception, de l'aigreur, un certain ressentiment vis-à-vis d'un soutien qu'il considère inachevé de la part des pays occidentaux et que lui a probablement connaissance, c'est probablement un des seuls d'ailleurs, avoir la connaissance exacte de la situation de ses forces sur le terrain et peut-être que, voilà, il n'est pas forcément très enclin à faire montre d'un grand optimisme. Ça ne veut pas dire qu'il va négocier, ça ne veut pas dire qu'il va signer, ça veut dire que les négociations vont se poursuivre tant que les combats dureront. Or, il me semble, je me trompe peut-être, depuis le début je dis que la guerre se compterait en semaines, on arrive à la 4e semaine, donc pour ce coup, j'ai bon. Voilà. Combien de temps ça va encore durer ? Personne ne le sait, prédire le futur, vous connaissez la formule, c'est difficile, mais on peut malgré tout s'attendre que cela dure encore quelques semaines. Alors quelques semaines, est-ce que c'est 2 semaines, est-ce que c'est 6 semaines ? Est-ce que c'est 10 semaines? Est-ce que ce sont des mois? Je n'en sais rien. Mais que cette attrition, cette usure de la part des deux forces, parce que c'est ça qu'il faut bien comprendre, beaucoup évoquent la guerre des villes, évoquent les questions humanitaires, évoquent la détresse des Ukrainiens, les réfugiés, etc. Et à juste titre, cela étant, l'essentiel de la guerre, malgré tout, se passe en force contre force. En tout état de cause, moi, c'est l'angle que j'adopte et qui m'aide à comprendre ce qui est en train de se passer. Et donc, tant que, je pense, cette dynamique de force contre force, ce langrignotage russe se poursuit, les hostilités ne cesseront pas. Le jour où on voit que les Russes n'avancent plus, y compris dans leur tenaille dans le Donbass, alors on va passer à autre chose.
Mais alors justement, si on envisage les formulations de cette sortie négociée éventuelle, il y a, vous l'évoquiez tout à l'heure, il y a le fait que la Russie tienne des territoires et puisse s'en servir comme levier de négociation. Plus ils en ont, évidemment, plus leur position initiale sera forte. Ça pose la question, vous en avez parlé un peu tout à l'heure, de la capacité de Vladimir Poutine à adapter ses buts de guerre. C'est pas évident. Enfin, il semble avoir lancé cette opération sur des prémices très fausses, donc il n'est pas forcément évident qu'il ait toutes les informations qui lui permettent d'adapter adéquatement ses buts de guerre en ce moment. Mais si on se place aussi de l'autre point de vue, Vladimir Zelensky dit pour l'instant qu'il ne laissera aucune concession territoriale à la Russie.
Il ne peut pas dire autre chose. Mettez-vous à sa place. Publiquement, il ne peut pas dire autre chose.
Bien sûr, mais même on pourrait supposer que des alliés fassent pression sur lui pour qu'il négocie, etc. Mais c'est une question plus large, en termes de système international, etc. aussi. C'est ce qu'il faut envisager, de laisser à la Russie des gains territoriaux pour que la guerre s'arrête. Ou, au contraire, est-ce que ça n'est pas problématique sur le long terme qu'une guerre d'agression russe puisse amener à des gains, en sens que ça pourrait être un précédent, que ça pourrait inciter à d'autres opérations comme ça. En fait, ça pose la question de comment, quelle porte de sortie est-ce qu'on laisse à la Russie, est-ce qu'on veut leur laisser une porte de sortie, ou est-ce qu'on veut au contraire montrer une intransigeance telle que l'opération soit irrémédiablement un échec.
Il faut faire... J'entends beaucoup de commentateurs, et je les sens... en Europe de l'Ouest, aux États-Unis, je les sens prêts à faire la guerre jusqu'au dernier Ukrainien. Celui qui, à la fin de l'histoire, va signer, ça va être le responsable ukrainien, le président Zelensky. Et donc, il décidera en fonction des intérêts de son pays. Alors après, ce qui va être intéressant, ça va être l'inclusion éventuelle d'acteurs extérieurs dans les bases d'un accord négocié. Qu'est-ce que ça peut être ? Ça peut être la question de la neutralisation de l'Ukraine. Et on sent bien, et Zelensky l'a laissé entendre, qu'il a bien compris qu'il ne rejoindrait jamais l'OTAN, qu'avec, après le Donbass, il ne pourra pas rejoindre l'OTAN. L'Ukraine qu'il a connue ne pourra pas rejoindre l'OTAN, et que donc peut-être qu'il peut admettre ce fait-là. Après, il risque d'y avoir d'autres choses. Par exemple, un des enjeux va être les sanctions. Les sanctions, ce n'est pas les Ukrainiens qui font des sanctions contre les Russes. Ce sont les Européens et les Américains, les Japonais. Voilà. Est-ce que nous avons déjà réfléchi ? Je crains que non, que peu de gens y réfléchissent, mais ça fait pourtant partie du travail des diplomates et notamment de notre rôle à nous, Européens, à nous, Français, de savoir comment contribuer finalement à la résolution du conflit. Est-ce que l'on est prêt, après tout ce qu'on a dit sur Poutine, à dire que pour garantir un accord de paix, il va falloir peut-être pour le faire reculer, lever un certain nombre de sanctions. Vous voyez, il y aura des choses qu'il va falloir que nous fassions alors que nous ne sommes pas ukrainiens pour contribuer. Parce que sinon, l'autre option, quelle va être ? Eh bien, ça va être, je reste sur une Ukraine divisée, et c'est pour ça que je faisais allusion à la Corée du Nord, mais on peut faire aussi allusion à l'Allemagne. Et on arrive finalement à votre questionnement ultime sur le système qui risque de sortir de là. Le système, c'est une nouvelle guerre froide avec un nouveau rideau de fer sur un pays qui va être divisé en deux, qui risque... Voilà, je veux dire qui risque d'être divisé en deux, avec une Ukraine que l'on appellera occupée, et Poutine va faire en sorte qu'il y ait un gouvernement local, forcément fantoche, soutenu par lui, mais qui soit officiellement ukrainien, hein, sur l'ensemble des zones qu'il contrôlera. Et puis de l'autre côté, une Ukraine qu'on appellera libre, résiduelle, etc., etc. Et donc on aura une Ukraine divisée. Et on sera parti pour 30 ans de guerre froide à nouveau.
Mais tout ça, c'est avec quelle garantie ? C'est-à-dire, si la Russie s'arrête sur une bande à un bout de l'Ukraine, des bouts de l'Ukraine, etc., qu'est-ce qui les empêche de recommencer dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, quand le potentiel militaire sera reconstitué ? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut imaginer ce qu'on a appelé à un moment une architecture de sécurité européenne ? C'est-à-dire, une manière de s'assurer que... Par exemple, en Ukraine, la Russie ne va pas, y compris dans un certain temps, finir par avoir tout ce qu'elle veut, c'est-à-dire la totalité de l'Ukraine. Quelles sont les garanties de l'autre côté si on admet que l'Ukraine, même le bout qui resterait, n'entrera pas dans l'OTAN ?
Regardez ce qui s'est passé pendant la guerre froide, des phases de tension extrême, des durcissements des dispositifs, parce qu'on peut imaginer malgré tout que cette Ukraine, sans faire partie de l'OTAN, cette Ukraine résiduelle, serait pour le coup beaucoup plus fermement appuyée qu'elle a pu l'être. Et puis, il va falloir, et vous parlez de comment garantir, il va falloir réinventer tout ce qu'on a inventé pendant la guerre froide, c'est-à-dire ces mesures de confiance et de sécurité, ces traités de désarmement, nucléaire, et puis ces traités de désarmement conventionnels, etc., qui ont commencé finalement très tôt au moment de la détente, pour arriver à construire tout un appareil. Vous parlez d'architecture de sécurité européenne qui a duré tout au long des années 90 et puis qui a peu à peu été délaissé parce qu'on n'y a pas fait attention et on a dit que c'était pas sérieux. Je veux dire, la sortie du traité APM par les Américains est finalement assez précoce. Et puis, on voit bien que les Russes aussi ont quitté un certain nombre de choses. Et puis, tout dernièrement, la sortie du traité FNI. Quels que soient les arguments, on voit bien que tous ces instruments de confiance et de sécurité que l'on avait mis des décennies à monter pour justement faire baisser la tension, eh bien, ont été délaissés et ont été malencontreusement, il n'y a pas d'autre mot, jetés. Voilà. Et donc, vous êtes en train de me dire comment ça va se passer. Eh bien, je veux dire, une guerre froide, ça va être c'est une très mauvaise nouvelle. Et c'est pour ça. Alors, on va paradoxalement me juger pour un idéaliste. D'habitude, on trouve que je suis beaucoup trop lucide et cynique. Mais je crois qu'il faut réellement appuyer les efforts de négociation qui ont en cours. Je trouve que c'est une très très mauvaise nouvelle, ce que j'ai lu aujourd'hui, que la direction américaine n'a plus de contact avec la direction russe. Je trouve que ce canal direct de conversation entre la Maison-Blanche et le Kremlin est un des éléments, si vous voulez, d'apaisement. Et je trouve que ça n'est pas forcément une très très bonne idée. Je ne veux pas savoir à qui c'est la faute. Je constate, si vous voulez, nous devons collectivement faire des efforts de négociation. Et vous faisiez allusion à mon passé de militaire. Je veux dire, une guerre, vous avez toujours finalement deux bras, deux jambes sur lesquelles ça marche. Vous avez la jambe des combats, la jambe du conflit, et puis la jambe de la négociation qui a toujours lieu. Et plus la guerre dure, plus cette jambe des négociations est difficile. Mais les diplomates, c'est leur métier de discuter, mais de discuter avec le diable, de discuter avec le méchant, de discuter avec l'ennemi, de discuter avec le criminel de guerre. C'est malgré tout avec lui qu'il va falloir discuter, parce que c'est avec lui qu'il va falloir construire les prémices d'une solution négociée qui seront la base éventuelle d'un apaisement, d'un armistice, et puis peut-être d'une détente, et puis peut-être d'une paix. Et j'insiste vraiment là-dessus, je suis peut-être un pur idéaliste, mais il faut se déprendre de notre passion, de l'émotion que nous ressentons en voyant tous les drames qui ont lieu en Ukraine, et faire tout notre possible pour appuyer les efforts diplomatiques, quels qu'ils soient.
Alors, une nouvelle guerre froide, ça envisage donc deux camps qui sont plus ou moins égaux, enfin, en tout cas qui sont plus ou moins de puissance, plus ou moins comparables, pour qu'il y ait un équilibre. La question, c'est est-ce que la Russie peut devenir peut redevenir ce pôle qu'il a été, en sachant que vous l'avez dit, c'est le PIB de l'Espagne, sensiblement. Et l'idée, l'horizon, c'est, peut-être que ce serait la Russie et la Chine, ensemble, avec ce géant qui monte. En vérité, on sait que les relations entre la Russie et la Chine sont pas simples, même depuis ce qu'on appelle parfois le pivot chinois de Moscou en 2014-2015, après la prise d'Ombassé de la Crimée. Donc voilà, la question c'est quel système, là on a parlé du système en quelque sorte européen, est-ce que c'est un système mondial qui émerge avec beaucoup d'ambiguïté quand même si on pense une convergence et un alignement Moscou-Pékin, parce qu'il n'existe pas du tout pour l'instant.
Deux remarques, cette guerre froide sera une guerre froide intra-européenne, et à la différence de la dernière, elle n'affectera pas l'ordre mondial, comme la précédente l'a affecté, c'est-à-dire que le monde bipolaire était un monde bipolaire qui était d'abord centré sur le théâtre européen. justement à cause de la minoration, de la Russie. Justement, cet affaiblissement stratégique de la Russie. Et d'ailleurs, le reste du monde regarde ces questions avec distance. Je crois qu'on ne prend pas assez conscience de ça à Paris, à Berlin, ou à Londres, ou même à Washington, si vous voulez. Le reste du monde ne veut pas revenir dans cette polarisation issue d'un monde occidental qu'il juge dépassé. Je suis désolé de le dire. Si vous regardez le vote aux Nations Unies, tout le monde dit la communauté internationale a voté. Ben non, vous avez eu finalement plein d'abstentions, et puis pas des abstentions mineures. Et puis observez que non seulement la Chine, mais l'Inde, mais le Brésil, mais l'Afrique du Sud n'appliqueront pas les sanctions. Je veux dire, quasiment toute l'Asie reste sur un quant à soi, une très grande partie de l'Afrique. Résultat d'ailleurs d'une manœuvre d'influence russe sur les 10 à 15 dernières années, et le Proche-Orient, regardez la distance des pays du Golfe, des pétroménarchies du Golfe, vis-à-vis des demandes américaines, alors que tout le monde cite à l'envi le pacte de Quincy. Donc tout ça pour vous dire que cette nouvelle guerre froide sera une guerre froide intra-européenne, c'est-à-dire que l'Europe, à cause de ça, va sortir encore plus marginalisée qu'elle ne pouvait l'être, et que finalement, vous risquez d'avoir non pas des blocs, parce que cette logique de bloc, elle est 20e siècle, c'est pas ce qui va se passer, mais vous allez avoir finalement tout un tas de pays asiatiques, africains, voire latino-américains, qui vont dire « passons à autre chose, vos histoires, ça ne nous concerne pas ». Voilà. Et on observe déjà, on parle des sanctions, mais sur les conséquences économiques qui vont être gigantesques, et avec des effets rétro sur nous qu'on commence à peine à mesurer. Mais on observe quelque chose qui n'est pas anodin, qui est le phénomène de dédollarisation. Alors vous voyez, je veux dire, on part sur la conflictualité économique, qui est donc finalement très loin de notre débat, mais qui dit dédollarisation dit que les Américains sont en train...
Donc dédollarisation, ça veut dire que les transactions internationales ne seront plus nécessairement en dollars.
Absolument. Déjà, c'est plus l'euro, parce que à force de saisir les réserves russes dans les banques européennes, eh bien finalement, tout un tas de pays du monde ont considéré que l'euro n'était pas une monnaie de réserve. Première chose. Donc l'euro s'est plié. Mais le dollar, avec des échanges marchands sur un nombre croissant de biens qui vont se faire hors zone dollar, ça va faire perdre à l'Amérique, aux États-Unis, un de leurs gigantesques actifs stratégiques qu'ils avaient depuis 1945. On va avoir des effets cascades que l'on envisage à peine, qui vont être finalement d'ordre mondial, et qui vont faire que nos problèmes européens vont être très marginaux. C'est ça qui est le plus désolant dans cette affaire.
Merci beaucoup, Olivier Kempf.
Je vous en prie, c'était un plaisir.
C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que vous pouvez nous faire part de vos remarques, commentaires, de vos notes aussi par Apple Podcast ou par SoundCloud, les différents outils de notation et de commentaires d'Apple Podcast et de SoundCloud. Tout ça est évidemment toujours très apprécié d'avoir un retour sur l'émission. Et vous pouvez aussi évidemment nous joindre par mail ou sur les réseaux sociaux de l'IRSEM. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.